La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Bonjour à tous. Donc, nous avons vu à la dernière séquence Justin et son itinéraire, d'abord comme philosophe, puis conquis à la foi chrétienne. Et donc, on avait commencé à aborder les grands enjeux théologiques du dialogue. Et la première question que se posait Justin, c'était « Qui sera sauvé ?» Donc pour Justin, est sauvé celui qui a la foi en Jésus-Christ et non pas celui qui pratique la loi, qui n'est pas une voie de salut. Alors la deuxième question que se pose Justin, c'est à qui appartiennent les Écritures ? Alors Justin déclare dans un grand élan que les Écritures appartiennent à ceux qui savent les lire et y reconnaître les signes annonciateurs du Christ, toujours à partir de l'Ancien Testament. Il écrit « Les reconnais-tu, Tryphon, les prédictions du Christ ? Elles sont déposées dans vos Écritures, ou plutôt non, pas dans les vôtres, mais dans les nôtres. Car par elles, nous sommes convaincus, tandis que vous, vous les lisez, mais sans comprendre l'esprit qui est en elles. » Voilà donc les Écritures du peuple juif confisquées par les chrétiens, car ce sont eux qui ont le mode d'emploi en Jésus-Christ. Donc, vous voyez que là aussi, fréquenter l'Écriture, lire l'Écriture, Vatican II a fait rentrer la formation dans les foyers, la Bible dans les foyers. Donc, c'est une question encore très actuelle que de se dire à qui appartiennent les Écritures. Si ce n'est pas pour la fréquenter, la relire, l'actualiser et la réfléchir aussi à la lumière de notre vie. Alors, pour Justin, continuons, l'Écriture, c'est une prophétie du Christ. Tryphon admet bien avec Justin que certains passages des Écritures sont messianiques, c'est-à-dire recèlent l'annonce de la venue du Messie. Mais Justin, comme tous les chrétiens, a tendance à multiplier ces passages et à voir partout, moyennant un décodage plus ou moins ingénieux, des esquisses de la figure du Christ, l'agneau pascal, le serviteur souffrant d'Isaïe, le psaume 21, bien sûr, mais aussi bien d'autres. On le voit, ces passages sont souvent présents dès le Nouveau Testament pour prouver aux Juifs que Jésus est bien le Messie. Mais l'interprétation christologique ne convainc pas toujours Tryphon, qui accuse parfois Justin de prendre des libertés avec le texte. Et Justin, de son côté, accuse Tryphon d'aveuglement, reprenant avec beaucoup d'autres le vocabulaire de 2 Corinthiens 3. Les Écritures qui restaient communes aux Juifs et aux chrétiens auraient pu les rapprocher. Leur interprétation, en fait, va désormais les diviser. C'est un premier essor de la christologie. Au sein du christianisme, cette interprétation christologique va amener une réflexion plus profonde sur la figure du Christ, dont la vie et l'enseignement sont de plus en plus relus à la lumière de l'Ancien Testament. C'est l'un des grands facteurs du développement de la christologie au IIe et IIIe siècle. Un autre aspect de la pensée théologique et de la compréhension de Justin, c'est Jésus, l'autre Dieu. Jésus dit à un moment du dialogue cette chose inouïe, Jésus est l'autre Dieu. À vrai dire, c'est d'abord une accusation dans la bouche de Tryphon, qui met en cause, sans surprise, le monothéisme jugé un peu flou des chrétiens, parce qu'il confesse de plus en plus explicitement la divinité de Jésus. À l'époque, il était impensable qu'un homme soit Dieu et inversement, qu'un Dieu devienne homme. Loin de récuser l'expression, Justin la reprend à son compte. Qui est cet autre Dieu ? Pour Justin, aucun doute. C'est le Logos, le Verbe préexistant qui s'est souvent montré dans l'Écriture. Le chêne de Mamré, le buisson de l'Exode. Des théophanies où Dieu parle et apparaît sous une figure visible. C'est donc, pour lui, la preuve qu'il y a dès le début un Verbe de Dieu, et c'est ce Verbe qui est en même temps la raison de l'univers qui prend chair en Jésus. C'est-à-dire que Jésus n'est pas seulement pour Justin le Messie d'Israël, mais aussi la parole même de Dieu qui est devenu cet homme. Bien que Justin n'en fasse pas encore une condition de l'appartenance au christianisme, cette christologie descendante va rapidement s'imposer et devenir normative au point de marginaliser et de faire traiter d'hérétiques ceux qui la refusent. Un autre point qui a été exprimé par Justin, c'est la naissance virginale. Là aussi, ça n'était pas un donné. Il fallait que des penseurs, des écrivains, des convertis, des pères proches des apôtres puissent réfléchir et donner leurs sentiments, en l'occurrence sur la naissance virginale. D'ailleurs, il faut faire un sort à part dans la doctrine de Justin sur le Christ, à ce thème qui, chez lui, a beaucoup d'importance, c'est la conception virginale de Jésus. Pourquoi cela ? Justin relit deux textes. Isaïe 7, qui lit dans la version grecque « Voici que la Vierge enfantera » et les récits de l'enfance qu'il connaît, sous une forme ou une autre, et qui attestent pour lui la naissance virginale de Jésus. Cette confrontation est à ses yeux la preuve décisive que c'est Jésus qui est le Messie attendu. Si le Messie doit naître d'une Vierge, et si Jésus est né d'une Vierge, alors Jésus est le seul homme dans l'histoire du monde à avoir accompli cette prophétie. Le Messie ne peut donc être que lui. Justin tire d'autre part argument de cette affirmation de foi pour montrer que né d'une Vierge, Jésus ne peut être un simple homme comme les autres. Il échappe à la condition commune. Chez Justin, la naissance virginale garde encore son simple statut de signe que Dieu intervient dans l'histoire des hommes. Mais très vite, elle deviendra une preuve ou une condition de la divinité de Jésus, homme par sa mère, Dieu par son père. Une autre question de Justin, c'est quel est l'Israël véritable ? Nous avons vu tout à l'heure que pour Justin, les Écritures, don de Dieu par excellence, appartenaient à présent aux chrétiens. Ce sont donc eux désormais qui sont dans l'Alliance, ce sont eux la vraie descendance d'Abraham. Ce sont eux le peuple élu, l'Israël véritable. Justin le dit explicitement au début et à la fin du dialogue. Tout entier compris dans cette inclusion. Aux œuvres de Jésus-Christ et à la puissance qui l'accompagnait, tous peuvent comprendre que c'est lui qui est la nouvelle loi, la nouvelle alliance, l'attente de ceux qui, dans toutes les nations, attendent les biens de Dieu. Car la race israélite véritable, spirituelle, celle de Judas, de Jacob, d'Isaac et d'Abraham, qui, dans l'incirconcision, a reçu de Dieu témoignage pour sa foi, qui a été béni et appelé le Père de peuples nombreux, c'est nous, nous que ce Christ crucifié a conduit vers Dieu, comme nous le démontrerons à mesure que s'avancera la discussion. Alors, heureusement, les choses ont un petit peu évolué là aussi, puisque nous n'avons plus cette extrême pensée sur le peuple élu, et qu'effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les Juifs sont nos grands frères dans la foi. Donc, Justin est l'un des auteurs les plus attachants de l'Antiquité chrétienne, parce que nous connaissons son itinéraire personnel, du moins ce qu'il veut nous en dire. Et il témoigne d'une confrontation exigeante avec le judaïsme de son temps, en même temps que d'une passion pour la vérité qu'il a assouvie dans la foi chrétienne. Cette foi, il l'a accueillie avec joie. Il l'a enseigné pendant le restant de sa vie comme s'il s'agissait d'une école de philosophie. Et finalement, il l'a confessé jusqu'au martyr avec les disciples qu'il avait formés et convertis.